insupportable. Je suis heureux de vous entendre chanter, louer le Seigneur. Ensuite, vous avez repris votre moment de silence dans la présence de Dieu. Vous avez eu des partages. Est-ce que ça s'est bien passé? Nous ne prétendons pas à tout couvrir. Nous ne faisons que survoler à très haute altitude, mais nous espérons que ça vous aura donné le goût de descendre plus bas et de vous poser sur ces textes et d'y réfléchir, parce que vous avez vu d'en haut certaines beautés que vous aimeriez voir de plus près. Nous voulons remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Ô Dieu, nous savons que sans ton esprit, nous allons nous égarer. Alors nous te demandons de nous contrôler complètement. Nous nous remettons entre tes mains, nous nous livrons à toi, totalement, esprit, âme et corps. Tu nous vois les uns et les autres à la fin d'une journée chargée, mais où nous avons voulu être occupé de la personne de ton Fils, de ton bien-aimé en qui tu as trouvé tout ton plaisir, eh bien donne-nous ce soir d'éprouver la joie de ton cœur en étant occupé une fois encore de celui qui a fait tes délices de toute éternité, et que nous soyons heureux ce soir du bonheur de Dieu parce que nous avons un objet ineffable à contempler. Conduis-nous par ta grâce dans la vérité, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir les merveilles de ta loi. Révèle ton livre à notre foi. Rends-le vivant, ô Dieu, pour chacune de nos âmes, que nous puissions nous y voir en notre laideur, mais comme le dit le cantique, te voir dans ta beauté, toi notre sauveur. Amen. Alors vous vous êtes arrêté, vous avez lu certainement ces deux chapitres, vous avez vu qu'ils allaient bien ensemble, comme les chapitres précédents de Étroit était lié pour nous parler des choses qui sont. Donc, de l'histoire de l'Église au cours des siècles depuis sa fondation et les prophéties concernant ce qui va advenir à la profession chrétienne. Parce qu'il faut faire une différence entre l'Église de Jésus-Christ, corps du Christ, qui a été révélée d'une façon toute particulière à l'apôtre Paul, une révélation qui lui a été donnée et qu'il a communiquée par les épîtres du Nouveau Testament, et j'aime souvent souligner cette phrase d'Élisabeth de la Trinité, une petite nonne de Dijon qui est morte avant 30 ans de tuberculose et qui s'était pris d'amour pour la parole de Dieu et qui disait, bien maintenant, je veux être instruite au sujet de ce qu'est l'Église. Eh bien, je vais me mettre à l'école de Saint Paul, puisque Saint Paul nous dit que c'est lui qui a reçu la révélation de ce qu'était l'Église. Pour connaître ce qu'est l'Église, je ne veux pas d'autre maître que l'apôtre Paul. Je trouve que c'est merveilleux, ça. Et puis, elle s'est mise à l'étude de l'apôtre Paul. Et si vous avez quelques lectures à faire, je vous conseille fortement Élisabeth de la Trinité, la petite carmélite de Dijon, ce qui vous montrera que le Seigneur a tous les moyens pour éclairer une âme, mais qu'il les éclaire par sa parole. C'est une un livre qui m'a beaucoup édifié quand j'étais encore très jeune. Et je savais que Dieu avait aussi son résidu dans l'Église romaine, un reste des âmes d'élite qui ont aimé la parole, qui ont souffert de cette interdiction que le système romain imposait à ses fidèles, puisque au Canada comme ailleurs, vous en saviez quelque chose, puisqu'on vous interdisait de lire la Bible. Mais, par la grâce de Dieu, il y a eu une ouverture, et maintenant, on a toujours prétendu, ces dernières années, que la Bible, c'était le grand livre de l'Église catholique. C'est ce qu'on dit maintenant. Mais c'est le grand livre de la véritable Église, qui est formée de tous les croyants, où qu'ils se trouvent, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur personnel, et qui sont devenus, non pas membres d'une organisation, mais d'un organisme vivant qui est le corps du Christ. Chaque croyant est un membre sur la terre et la tête est dans le ciel. Alors, nous avons donc vu dans les chapitres précédents l'histoire de cette Église, après avoir contemplé dans le chapitre premier la personne de Jésus, le juge de toute la terre, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, dont la venue est proche. Puis, après que le Seigneur aura vomi cette chrétienté qui marche vers l'apostasie, mais quand je dis chrétienté, je ne dis pas l'Église. La véritable Église du Christ est formée de ceux qui sont attachés de cœur, de ceux qui ont adhéré à la personne du Christ, du Seigneur. Ils font partie du Seigneur lui-même. Le Christ total, ce n'est pas seulement la tête dans la gloire, mais c'est tous ses membres aussi sur la terre, ceux qu'il reconnaît pour les siens. Et pour être des siens, il faut avoir sa nature, il faut avoir une nouvelle nature. Quand nous naissons de la chair, nous savons que ce qui est né de la chair est chair. Que vous soyez né dans l'Église romaine ou dans une Église luthérienne, calviniste, orthodoxe, anglicane, quelle que soit l'Église de votre naissance, vous êtes né de la chair. Et ce qui est de la chair est chair. Mais ce qui est de l'esprit est esprit. Et alors, d'où que nous venions, nous devons naître de nouveau. Et en naissant de nouveau, c'est-à-dire en acceptant la parole de Dieu dans la foi, cette parole qui nous présente Jésus comme étant le Fils unique de Dieu, le Sauveur du monde, quand on accepte Jésus comme son Sauveur personnel, quand on accepte le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils, eh bien, cette foi vivante qui s'approprie le Fils de Dieu nous communique la vie. La vie, dit l'Écriture, est dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si vous ne voulez pas de Jésus, vous n'avez pas la vraie vie. La vie véritable, la vie éternelle, c'est la vie qui est en Jésus. Et pour avoir cette vie, il nous faut la personne qui la possède, et cette personne qui la possède, c'est Jésus. Or, de Jésus, il n'y a pas de salut, a dit l'apôtre Pierre. Il n'a pas dit hors de Rome, il n'y a pas de salut. Il a dit hors de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom, Actes 4, verset 12, qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus qui nous sauve. Mais ce salut, c'est la réception de sa personne dans nos cœurs. Et cette personne, elle nous est révélée par sa parole. La parole est venue chez les siens. C'était les Juifs, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair et du sang, mais sont nés de Dieu. Non pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est cela la nouvelle naissance. Mais faites bien attention de ne pas faire de la nouvelle naissance simplement un born again. Hein, vous comprenez ce que ça veut dire. Je suis un born again, je suis né de nouveau. Mais si vous êtes vraiment né de nouveau, on le verra. Born again, je suis born again. Bon. Il faut que la vie de Dieu soit manifestée en vous, que vous ayez une foi qui soit prouvée par des œuvres. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est sauvé par une foi qui, si elle est vivante, produit des œuvres et qui sont à la gloire de Dieu. Et le monde, ce qu'il voit, ce n'est pas votre foi intellectuelle. Ce qu'il voit, ce sont vos œuvres. Vos œuvres. Et ce qui peut amener le monde incrédule à la foi, c'est de voir nos œuvres. Des œuvres qui sont la manifestation, non pas d'un effort pour gagner et mériter le ciel, mais la manifestation d'un amour plein de reconnaissance pour le Seigneur. Et alors nous sommes disponibles pour accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est une joie. C'est une joie. Mais ce n'est pas nos œuvres qui vont nous sauver, c'est le salut qui nous a été donné en Jésus-Christ. Mais ces œuvres auront une récompense. Au tribunal du Christ, où nous paraîtrons tous, nous serons examinés, non pas quant à nos âmes, puisque nous sommes passés de la mort à la vie et que nous ne venons pas en jugement, mais nous serons examinés quant à nos œuvres, et le Seigneur donnera à ceux qui, depuis leur conversion, ont voulu marcher dans l'empreinte de ses traces, il donnera une récompense, ce qu'on pourrait appeler des promotions. Et dans la mesure où vous avez été fidèles dans les petites choses que vous avez bien saisies sur la terre, le Seigneur pourra vous confier des plus grandes dans son royaume, dans l'administration de son royaume. Tant que nous sommes ici-bas, nous sommes à l'école du Seigneur. Nous recevons ses instructions en vue de l'éternité. Mais nous avons déjà à vivre dans le temps présent. Alors vous avez pu remarquer que à partir du chapitre 4, c'est une nouvelle partie après cela. Après donc que l'histoire de l'Église est en quelque sorte terminée, on la retrouvera à l'Église, mais on la retrouvera au chapitre 19e. Mais depuis le chapitre 4e, il n'est plus question de l'Église sur la terre. Il y aura encore une Église sur la terre, mais ce sera la chrétienté apostate. Ce sera vraiment l'Église de tous les milieux rassemblés, tous ceux qui n'avaient qu'une profession religieuse, qu'elle vienne du bouddhisme, qu'elle vienne du mahométisme, que ce soit la religion musulmane, que ce soit les religions dites chrétiennes, mais qui n'avaient pas la vie véritable, parce que le christianisme a dégénéré lui aussi. Les chrétiens ont trahi le Christ. Il y a maintenant, comme on le voit dans l'Apocalypse, la vraie Église, qui est l'épouse de Christ, qui est fidèle, fiancée à Christ, qui dit non au monde et aux principes du monde, mais il y a à côté de cela la prostituée, Babylone. Et Babylone, ben, c'est tout ce qu'il peut y avoir de religieux, mais où on ne suit plus la parole. C'est du paganisme mélangé au christianisme, à l'hindouisme, au bouddhisme, à tout ce que vous voulez. C'est la grande salade et on se réjouit de penser à cette unité, mais ce n'est pas la vraie unité. C'est une unité qui va vers la destruction. Tandis que la vraie Église, quelle que soit la dénomination de notre naissance, si nous sommes au Seigneur, si nous l'avons reçu, nous faisons partie du corps de Christ, indépendamment du milieu qui nous a vu naître. Alors, pour nous, la question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes en Christ ou d'abord dans une communauté? Est-ce que nous sommes en Christ? Est-ce que nous appartenons au Christ? Est-ce que c'est le Christ qui nous dirige? C'est heureux de pouvoir trouver des frères et des sœurs avec lesquels nous nous réunissons. Mais le centre de notre culte, est-ce que c'est vraiment le Christ? La personne de Christ? Ou bien est-ce que c'est le curé? Est-ce que c'est l'évêque? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est un prédicateur? Eh bien, j'aimerais mieux disparaître si je vous donnais l'impression que moi, je veux faire un milieu à moi. Il n'en est pas question, il est question que je sois un serviteur qui essaye de remplir vos cœurs de la personne du Seigneur et que dans les milieux où vous alliez, vous apportiez vous-même ce que vous avez reçu, non pas moi, mais le Seigneur Jésus. Alors, nous connaissons, si vous lisez toute l'Apocalypse, la fin de Babylone. Alors, je vous demande maintenant, est-ce que vous êtes une pierre de l'édifice spirituel qu'est l'Église du Seigneur, ou bien est-ce que vous êtes une pierre de Babylone? L'édifice spirituel qui appartient au Seigneur, voyez-vous, il a tous les caractères de la vie d'en haut. C'est déjà une vie céleste. La véritable Église du Christ, elle devrait être une manifestation céleste sur la terre. On devrait connaître dans les chrétiens quelque chose de l'amour du ciel, de la joie du ciel, de la paix du ciel, de la bonté du ciel, de la... Qu'est-ce que vous avez encore comme fruit de l'esprit? Aidez-moi, puisque ma mémoire est défaillante. Eh bien, je ne vais pas en manquer une. Alors, nous avons qu'à consulter la parole, n'est-ce pas? La fidélité, la patience, la bonté, la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi. Eh bien, il faut que ce fruit de l'esprit soit manifesté dans nos vies personnelles et alors dans nos églises. Et c'est ainsi qu'il y aura un témoignage et qu'on dira, oui, là, je peux y aller parce que là, le Christ est honoré et le fruit de l'esprit y est manifesté. Nous nous accueillons les uns les autres comme le Christ nous a reçus. À la gloire de Dieu, nous n'avons plus des jugements toujours négatifs sur les autres. Alors, êtes-vous une pierre de l'Église du Christ et qui a un caractère déjà céleste, puisqu'on la verra finalement descendre du ciel d'auprès de Dieu, ou bien êtes-vous une pierre de cette Babylone que les hommes et les hommes religieux veulent construire eux-mêmes comme une espèce de tour de Babel pour monter vers le ciel? Alors il y a beaucoup d'hommes qui sont tout à fait prêts à faire partie de cette grande tour de Babel, une église qui est construite, qu'on appellera peut-être cité de Dieu, mais qui est une cité humaine et finalement qui se prostitue avec le monde. Il y a deux femmes dans la parole, il y a l'Église et puis il y a Babylone. Il y a l'Église épouse fidèle qui maintenant est fiancée à Christ et qui attend les noces de l'agneau, et puis il y a Babylone qui est devenue la prostituée, qui s'asseyera sur la bête, qui croira dominer le monde entier, et que la bête finalement rejettera et ne fera mourir, la déchira. Il n'y a pas d'avenir pour la fausse Église. Mais pour la vraie Église, son avenir, c'est d'être réuni à son époux bien-aimé, qui l'attend pour pouvoir jouir du fruit du travail de son âme. Et si vraiment nos aspirations sont des aspirations célestes, elles répondent aux désirs du cœur de l'époux, et nous pouvons dire avec le Saint-Esprit, « Oui, viens, Seigneur Jésus. » Nous désirons sa venue, non pas pour être délivrés des misères présentes, mais par amour, parce que nous voudrions être avec lui. Et pour beaucoup de personnes, on pense qu'être avec Jésus, c'est mourir. Non, parce qu'il y a une génération qui ne passera pas par la mort. Alors, quand nous disons que nous désirons être avec Jésus, nous ne voulons pas dire « je voudrais mourir », mais « je voudrais qu'il revienne ». Je serais heureux enfin de le voir. Nous ne l'avons pas vu, mais nous l'aimons. Et quoique ne l'ayant pas vu, nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Que le Seigneur vienne. Il est réellement quelqu'un de vrai. Alors vous voyez, à un moment donné, eh bien, dans le chapitre 4, vous avez lu ces paroles. Je ne vais pas les commenter beaucoup parce que ça nous conduirait trop tard. Vous avez les moustiques, vous avez toutes sortes de choses qui vous ennuient. On a à s'occuper de tas de bêtes qui sont plus grosses que les moustiques. Alors nous allons en dire quelques mots et voir si on peut aussi les trouver dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et voilà. Alors, je vous donne simplement, j'essaie de vous donner le goût d'approfondir. Après cela, donc après l'histoire de l'Église, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? La porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre dans le ciel. Un jour, le ciel entier sera ouvert, mais une porte au moins. Et Jean nous dit qu'il fut en esprit. La première voix que j'avais entendue, il l'a entendue dans quel chapitre? Chapitre premier. Hein? La première voix, c'est la voix du Seigneur. Hein? Et au sujet de son retour, dans d'autres passages, il est dit que nous entendrons le cri de commandement du Seigneur, la voix de l'archange, au cri de commandement du Seigneur, les morts en Christ seront ressuscités et nous les vivants, nous serons changés. Donc, lui, il entend la voix du Seigneur, la première voix que j'avais ouïe, comme un son de trompette. Il est parlé aussi, au retour du Seigneur, de la dernière trompette, du dernier signal, hein, qui me parlait, et elle me dit, monte ici. Alors, on sera plus, on n'est plus sur la terre pour voir les choses, on les voit d'en haut. On voit les choses d'en haut. Monte ici. Est-ce que ça vous ennuierait qu'ils vous disent monte ici? En un instant. Par cette attraction puissante. Et qui est plus puissante que l'attraction là, que nous voyons dans la télévision, peut-être quand la navette spatiale s'en va et s'arrache à l'attraction de la Terre, mais ils n'ont pas pu s'arracher à l'apesanteur. Ils arrivent dans l'apesanteur et ils flottent. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils n'ont pas rencontré Dieu. Enfin, c'est Gagarine qui disait ça, qu'ils n'avaient pas rencontré Dieu dans l'espace. Mais parce qu'ils n'avaient pas été arrachés à l'apesanteur pour aller jusqu'à la maison du Père. Parce que là, il faut un autre scaphandre que les Russes et les Américains ont pu produire. Ils flottent. C'est déjà beau de flotter là-haut. C'est déjà beau d'avoir pu s'arracher à l'attraction terrestre. Mais il faut s'arracher à l'apesanteur et c'est le Seigneur qui va nous revêtir de corps capables d'arriver jusqu'à la maison du Père. Et c'est lui qui nous y conduira. Les portails éternels s'ouvriront et le Seigneur pourra présenter à son Père son Église, parfaitement une, alors puisqu'il n'en manquera aucun, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pas couverte par les perfections de son fils. Ce ne sera plus l'église fatiguée que vous voyez monter du désert, qui est pleine de taches, de rides, et bien des choses semblables qui nous caractérisent. Une église vraiment transformée, semblable à lui, monte ici. Et alors ça nous fait penser toujours à l'Ancien Testament, puisque mon but c'est de vous donner le goût de l'Ancien Testament. Quand Moïse a reçu la loi du Seigneur et que les Israélites entendant cette voix ont dit « Nous ne voulons plus entendre cette voix, toi Moïse écoute-la puis tu nous transmettras les messages », le Seigneur a dit à Moïse « Monte jusque vers moi ». Et puis il est monté. Donc vous pouvez toujours trouver dans l'Ancien Testament des éclaircissements aussi sur cette voix du Seigneur qui nous appelle à monter. Et nous lisons dans le chapitre 24 de l'Ancien Testament qu'en effet Moïse est monté, mais avec aussi les anciens d'Israël. Et ils ont eu une vision de la gloire de Dieu. Vous avez cela dans le chapitre 24 de l'Exode. Alors, la loi, c'est dans le chapitre 20. Dans le chapitre 24, la montée aussi de Moïse avec les anciens d'Israël, ils virent la gloire de Dieu et il y a des pierres précieuses sous ses pieds, c'est quelque chose de merveilleux. La gloire de Dieu, c'est inexprimable, c'est infini, mais ils ont pu voir cette gloire quand même et vivre, enfin, ils ont vu une partie de cette gloire, non pas la substance même de Dieu, parce que Dieu, personne ne peut le voir, mais ils ont vu ce que Dieu voulait bien en manifester. Et là, dans l'Apocalypse, Jean a aussi une vision quand il est monté. Je te ferai voir les choses qui vont arriver dans la suite. Alors, si vous pouvez recevoir le témoignage de Jésus au sujet de l'Église, vous l'avez reçu? Est-ce que ce que Jésus a dit au sujet de l'Église est vrai et correspond à la réalité pratique de tous les jours? Oui, hein. Nous voyons l'Église qui est l'Église, enfin la profession chrétienne qui va vers la ruine. Hein. Mais l'Église sera gardée et sera enlevée. Il y a un moment où on ne pourra plus supporter la présence des chrétiens, eh bien, ce qui retient disparaîtra, le Saint-Esprit partira avec les chrétiens, et alors ce sera la marée du mal qui couvrira le monde et Satan qui manifestera dans le peu de temps qui lui reste toute sa haine. Il manifestera ce qu'il a dans le cœur, voulant remplacer Dieu et être à la place de Dieu. Et l'adoration du diable, elle fait des progrès sensationnels. Et même on emploie les méthodes évangéliques pour amener les âmes qui répondent à Satan à adorer Satan. Et on les fait avancer devant celui qui a présenté Satan comme étant Dieu. Et on a des conseillers pour conseiller les jeunes qui n'ont que quelques années, 12, 13, 14 ans, pour qu'ils prennent une décision pour se livrer entièrement à Satan. Avec toute la musique possible, on crée l'ambiance et on imite ce que ont fait certains prédicateurs. Les mêmes méthodes sont employées. Et vous savez, c'est quelque chose d'épouvantable. Et l'autre jour, je me trouvais en Suisse et je savais que Johnny Holiday était à Lesin, une ville sur la montagne en Suisse, où il y avait 3000 malades quand je m'y trouvais, malades tuberculeux, et pendant 7 ans j'étais aumônier dans ces sanatoriums. Maintenant ce sont des colonies de vacances, c'est le Club Med et tout ce que vous voulez. Et là, il y avait un festival de rock avec Johnny Holiday. Et 10 000 personnes hurlaient, Johnny, Johnny, tu es notre Dieu. Des jeunes, hein, des fonds, tu es notre Dieu. Eh bien, voilà où l'on en arrive. Et pourtant, on est peut-être des baptisés. Mais il y a eu une terrible grêle qui est tombée ce jour-là et qui a ravagé en Suisse toute la ligne qui va de Lausanne jusqu'à plus loin que Montreux. En quelques instants, 5 cm de grêle qui a ravagé les meilleures vignes de Lavaux. Ce qui est dans l'Apocalypse, la grêle, c'est toujours une manifestation du déplaisir de Dieu. Es-tu allé au trésor de la grêle, dit Dieu à Job, hein? Est-ce qu'il y a vu mes réserves, ce que Dieu peut faire simplement avec les éléments de la nature pour essayer d'arrêter l'homme dans sa folie? Mais ça ne va pas l'arrêter. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, courez après lui. Il y aura une accentuation. Alors, vous avez vu avec l'apôtre Jean ce qui lui est manifesté dans le ciel. Aussitôt, je fus ravi, verset 2, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un assis. Oh, que c'est précieux de savoir qu'il y a un trône dans le ciel. Mais notez bien, si vous avez quelques connaissances de l'Écriture, n'identifiez pas ce trône à celui des Hébreux. Celui que nous connaissons, nous, maintenant, dans cette économie présente, ça s'appelle le trône de la grâce. D'où nous pouvons nous approcher pour obtenir du secours au moment opportun. Le trône de la grâce, on n'a pas besoin de l'assiéger, comme on l'entend quelquefois dans les prières. Seigneur, nous assiégeons ton trône de grâce. Il n'y a pas besoin d'assiéger le trône de la grâce, c'est une ville ouverte. Hein. Le trône de la grâce, il est ouvert à tous. Mais ce trône-là, ce n'est pas le trône des Hébreux, c'est le trône judiciaire. C'est le trône du juge. Et tout l'aspect de ce trône, à travers l'Apocalypse, nous est révélé comme le trône judiciaire. Il y a un trône dans le ciel, et c'est celui qui est assis sur ce trône, qui a en main toute chose. Et comme vous avez accepté le jugement de Jésus, le témoignage de Jésus au sujet de l'Église, vous devez maintenant accepter le témoignage de Jésus au sujet des événements qui vont se passer dans le monde. Et depuis le chapitre 4, nous voyons ces événements. Mais nous voyons d'abord ce qui se passe dans le ciel. Il y a quelqu'un qui règne au-dessus de tout. J'aime beaucoup le psaume 29 où il est dit: l'Éternel était sur son trône quand au déluge. Hein? Il y avait le déluge, mais au-dessus du déluge, il y avait le trône de Dieu, qui se souvenait que dans l'arche qu'avait construite Noé, parce qu'il avait obéi à la parole, se trouvaient 8 personnes et les animaux que le Seigneur avait voulu conserver, et qui avait été plus intelligent que les contemporains de Noé. Les animaux avaient été avertis et étaient entrés. Pendant 120 ans, les hommes ont été avertis par Noé, on s'est moqué de lui, on n'a pas cru que ces choses arriveraient, comme on ne croit peut-être pas que l'Église peut être enlevée soudainement et disparaître pour laisser le monde aller à son but, qui est justement la catastrophe, la perdition quant à celui qui le dirige. Mais vous voyez au verset 3, celui qui était assis sur le trône avait l'apparence d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Eh bien, vous voyez que c'est une vision de gloire. Et que vous rappelle l'arc-en-ciel ? L'alliance, n'est-ce pas? L'alliance, Dieu se souvient de son alliance avec la terre, de son alliance avec Noé, de sorte que nous sommes donc instruits par cela. On voit autour du trône, on voit donc l'arc-en-ciel. Autour du trône, je vis 24 trônes, donc le Seigneur n'est pas seul, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Les vêtements blancs nous parlent des saints qui sont glorifiés et puis ils sont couronnés. Ce n'est pas des esprits ici, ce ne sont pas des anges, mais ce sont des êtres humains. Nous pensons aux 24 classes de la sacrificature que vous trouvez dans le livre des Chroniques au chapitre 24 et qui peuvent représenter les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, les chefs de l'Église et d'Israël. Il y aura des saints d'Israël qui seront donc glorifiés. Dieu n'en oubliera aucun. On peut y voir cela. Mais il faut lire l'Ancien Testament aussi. Mais ils auront leur place, les saints de l'Ancien Testament. Mais du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Ça vous rappelle quoi, ça? Ça vous ramène où? Où est-ce qu'on voyait des éclairs, des voix et des tonnerres? À Sinaï. On est ramené en arrière et on voit justement Sinaï. Des éclairs qui illuminent la situation, la lumière, n'est-ce pas? Des voix qui avertissent et puis des tonnerres qui jugent. Il y a les trois choses, mais il faut méditer là-dessus. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. J'ai déjà parlé des sept esprits de Dieu. Et c'est toujours le Saint-Esprit dans ses formes diverses. Et ce feu que nous voyons là, c'est cet esprit de Dieu. Vous les retrouvez dans la théophanie du chapitre 24 de l'Exode. Il est dit que au chapitre 24, verset 16, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La nuée est toujours une manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Vous retrouvez ce feu dévorant et qui ici est manifesté par cet esprit de Dieu. Mais verset 6, il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Ça vous fait penser à quoi, ça? Oui, mais l'eau, la cuve d'airain qui était après l'autel des holocaustes, dans le tabernacle, il y avait la cuve d'airain qui était remplie d'eau, le fond était fait avec le miroir des femmes, et les sacrificateurs, quand ils voulaient s'approcher de la maison, donc du tabernacle, ils devaient, après le sacrifice, passer à la cuve d'airain pour se purifier. Mais dans le ciel, il n'y a plus besoin de se purifier. Il y a le souvenir de la cuve, mais comme les saints glorifiés n'auront plus affaire avec aucun péché, il n'y a plus de purification. La cuve est présentée là comme du cristal, semblable à du cristal, semblable à une mer de verre. On n'a plus besoin de purification dans le ciel. Nous sommes rendus semblables au Christ parce que nous le voyons tel qu'il est. Vous avez cela dans l'épître de Jean. Et alors, le premier être vivant est au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Ça veut dire quoi, ses yeux devant et derrière? Ils voient partout, n'est-ce pas? Ils ont une connaissance parfaite de tout ce qui se passe. Alors, là j'ai posé cette question. Donc la première, peut-on avoir une compréhension d'une parole prophétique en ignorant l'Ancien Testament? Vous avez dit non. Maintenant, deuxième question, peut-on trouver dans les livres de Moïse des chroniques? Vous avez dit oui, hein, on vous l'a montré, hein, mais aussi d'Ésaïe et d'Ézéchiel. Eh bien, ces êtres vivants nous sont montrés aussi dans le prophète Ézéchiel. Et ceux qui viennent à ces conférences depuis assez longtemps, c'était peut-être pas ici, c'était peut-être à... Où est-ce que c'était qu'on se réunissait aussi? À Pierrefonds, on a fait justement les premiers chapitres d'Ésaïe, les premiers chapitres de Jérémie et les premiers chapitres, le premier chapitre d'Ézéchiel. C'était les vocations des prophètes. Et les trois ont eu une théophanie. Et on avait parlé de cette vision d'Ézéchiel au bord du fleuve de Babylone, quand il voit tout d'un coup du ciel arriver un chariot extraordinaire qui avait des grandes roues, des jantes qui allaient comme ceci et puis comme cela. Ça pouvait aller tout droit dans ce sens et sans se tourner, ça pouvait aller dans l'autre sens. C'est cette vision extraordinaire d'un chariot sur lequel se trouvait un trône, et sur ce trône se trouvait qui? Une figure semblable à celle d'un homme, c'était le Seigneur. Mais il y avait quatre animaux qui portaient le trône. Et vous retrouvez ces quatre animaux ici, et si vous voulez bien comprendre ça, il vous faut étudier le chapitre premier d'Ézéchiel. Un avait la face d'un homme. Ils avaient quatre faces, oui, mais je ne vais pas élaborer là-dessus. Face d'un homme, face d'un lion, face d'un veau ou d'un taureau, et puis face d'un aigle. Eh bien, ce sont les agents de Dieu qui interviennent dans ce monde. Au-dessus de ces agents, de ces animaux, n'est-ce pas, qui, dans un langage symbolique, nous montre toute la puissance de Dieu en intervention dans ce monde. Avec une vitesse extraordinaire, le chariot du Seigneur s'en va dans cette direction, s'en va dans l'autre, il ne se tourne pas quand ils vont, et chacun de ces animaux peut représenter donc la royauté du Seigneur. Le lion, roi des animaux, féroce, le taureau, roi des animaux domestiques, l'aigle, roi des oiseaux, hein, et puis l'homme, roi de la terre. C'est lui qui aurait dû être le roi de la terre. Alors, l'homme représente l'intelligence divine. Dieu l'avait créé à son image, l'intelligence chez l'homme. Chez le lion, la majesté et la force, mais aussi le pouvoir de détruire. Chez le taureau, la puissance qui produit, comment est-ce qu'il faut dire ça? Oui, aussi le service, enfin tout ce que vous voulez là, et puis la patience là, du bœuf qui laboure, tout ce que vous voulez, mais surtout... C'est donc la force de Dieu qui pénètre la création et l'aigle, la rapidité. Hein. Cette contemplation que l'aigle a, il voit les choses de très haut et puis il fond sur sa proie. Mais ce que les hommes ont fait, ils ont déifié les animaux. Ils ont déifié les agents de la puissance de Dieu. Au lieu d'adorer Dieu, on a adoré les animaux. On a pris les animaux, les agents de Dieu, comme étant des dieux, alors que c'est le Dieu unique qui est au-dessus de tous ces animaux. Il faudrait plus de temps pour élaborer là-dessus. Mais j'en vois tout cela dans le ciel. Mais j'ai dit que ça faisait penser aussi à Ésaïe. Ces animaux dans Ézéchiel sont appelés des chérubins. Ils ont quatre ailes. Ce sont donc les agents de la puissance de Dieu manifestée dans la création. Parce que le chapitre 4 nous montre vraiment le Créateur. Et dans le chapitre 6 d'Ésaïe, vous avez une autre sorte d'anges qui sont les séraphins. Les séraphins qui ont six ailes et qui se tiennent devant le trône, et qu'est-ce qu'ils disent ? Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alors, les séraphins se trouvent devant le trône, ce sont les agents ou les représentants de l'adoration céleste. Les séraphins adorent. Les chérubins exécutent les ordres de Dieu avec puissance, avec force, avec rapidité et avec intelligence. Tout est gouverné par Dieu et il est sur son trône. L'Éternel est assis sur son trône. Alors, tous ces êtres sont avec les 24 anciens dans l'adoration du Seigneur. Ils ne cessent de dire « Jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Vous retrouvez Ésaïe 6, verset 9. « Quand les êtres vivants rendent gloire, donc est-ce que les êtres vivants, on doit les adorer ? Non, ils rendent gloire, comme les anges du reste, et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Il n'y en a qu'un qui vit au siècle des siècles. Alors les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jetèrent leur couronne. Pour qu'ils soient couronnés, il s'agit donc de saint glorifier. Parce qu'on a les couronnes que quand on est glorifié. Il est donc vraiment question de saints glorifiés que Jean voit dans le ciel. Il y a les habitants du ciel. Quand vous lirez l'Apocalypse, il sera toujours parlé des habitants du ciel et puis des habitants de la terre. De ceux qui n'ont leur pensée qu'aux choses de la terre. Alors faites bien cette distinction. Est-ce que dans vos cœurs, vous êtes déjà un habitant du ciel ou bien est-ce que toutes vos pensées sont encore tournées vers les choses de la terre. Est-ce que pour vous réussir, c'est réussir sur la terre ou bien c'est glorifier le Seigneur? Voilà la grande question. Tu es digne, que disent-ils? Voyez les prières comme elles sont courtes. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par toi, par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, il a là une vision du Créateur. Et dans le chapitre 5, nous allons terminer là, il a la vision du Rédempteur. Puis je vis dans la droite de celui qui était sur le trône, un livre écrit au-dedans et au-dehors et scellé de sept sceaux. Et vous connaissez toute l'histoire, vous l'avez lu. Personne n'est trouvé digne de prendre ce livre et d'en ouvrir les sceaux qui vont être la manifestation de la puissance de Dieu et qui prend en main toutes choses, mais qui commence par les jugements, après avoir jugé, le jugement de Dieu commence par sa maison. Il y a le jugement du monde à l'ouverture de ces sept sceaux. Et le pauvre Jean pleurait parce que personne n'était trouvé digne de prendre le livre. Et tout à coup, au verset 6, je vis au milieu du trône et des vieillards un agneau qui se tenait là comme immolé. Quand il pleurait tellement, un vieillard est venu le consoler en lui disant, ne pleure point, verset 5, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ouvrir les sceaux. Vous vous attendez à voir quoi alors? Un lion, hein, puisqu'il dit, voici le lion. Et ce lion, il apparaît sous quelle forme? D'un agneau qui tenait là comme immolé. Et alors, vous avez trouvé la réponse à la troisième question. Quelle est la grande figure du chapitre 5 et de tout le livre de l'Apocalypse? C'est l'agneau. De tous les noms que vous avez pu trouver, que vous pouvez trouver et collectionner dans l'Apocalypse, il est l'agneau. Et 28 fois, sinon 29, il est question de l'agneau dans le livre de l'Apocalypse, qui se tenait là comme immolé. Mais un agneau immolé qui se trouve couché ou debout? Debout. Vous aimez bien dire qu'il faut se tenir debout. Bien, l'agneau, il se tient debout. Croyez-le, il y a quelqu'un qui est debout. Mais c'est l'agneau qui a été immolé et qui est seul digne de prendre le pouvoir dans le monde. Alors, où trouvez-vous son image dans l'Ancien et le Nouveau Testament? Vous pouvez commencer avec Abel qui offre des agneaux. Vous pouvez arriver à Abraham qui trouve un bélier retenu par les cornes dans un buisson et qui offre cet agneau à la place de son fils Isaac. Vous arrivez dans l'Exode où vous trouvez l'agneau pascal qu'on devait égorger entre les deux soirs, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi, au temps où le Christ a expiré, et qui est un symbole aussi de l'agneau qui viendrait mettre fin à tous les sacrifices du Lévitique, car vous trouvez aussi des agneaux dans le Lévitique. Mais dans les prophètes, où trouvez-vous un agneau? Dans Ésaïe, chapitre 53, il a été comme un agneau qu'on mène à la boucherie, et il n'a pas ouvert sa bouche. Vous arrivez dans le Nouveau Testament, et qu'est-ce que vous trouvez? Jean-Baptiste présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis, si vous arrivez au chapitre 21, le Seigneur dit à Pierre, paie mes agneaux. Et finalement, dans la première épître de Pierre, il est dit, vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, non pas par de l'argent et de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau préconnu dès avant la fondation du monde. Et c'est quelque chose de fantastique de penser que dans les Éphésiens, il est dit que nos noms sont écrits dès avant la fondation du monde. Tandis que pour Israël, et dans l'Apocalypse, il est spécialement question d'Israël, il est dit que leurs noms sont écrits dès la fondation du monde. Mais pour l'Église, c'est dès avant la fondation du monde. Il n'y a pas de contradiction. Mais il faut sonder les Écritures. Il faut en devenir familier. Il faut s'en nourrir. Il faut demander au Seigneur, éclaire-moi davantage. Parce que c'est pas qu'on ait des connaissances qui comptent, mais c'est qu'on ait un amour pour le Seigneur, qu'on découvre quelque bonté de plus de lui, qu'on apprenne quelque chose de plus de lui. C'était là la pensée de saint Paul. Je n'ai qu'une envie, je l'estime toute chose comme des ordures pourvu de gagner Christ, connaître Christ. Le reste, c'est pour moi de la boue. Voilà ce que disait Jésus. Voilà ce que disait Paul, parce qu'il avait connu Christ. Et il voulait le connaître davantage. Donc, puissiez-vous avoir ce soir du 7 septembre 1991, pour ne pas me tromper, que vous puissiez avoir ce désir de connaître pour vous-même, non pas une autre religion, mais le Seigneur, des seigneurs, le roi des rois, le prince des rois de la terre. Alors, connaissez-vous maintenant quelques clés pour lire avec intelligence le livre de la Révélation? Bien, je veux le croire. Vous gardez la clé christologique qui vous aide à découvrir l'intelligence que Jean a du mystère de Christ. et qui nous invite à nous réjouir de la victoire du ressuscité, les clés historiques et prophétiques qui met en lumière l'espérance que Jean devait inculquer à la communauté éprouvée, la clé symbolique appliquée, je dirais, aux couleurs et aux chiffres que vous trouvez dans l'Apocalypse et qui souligne la plénitude de vie et de puissance dont le Christ est investi et qu'il partage avec ceux qui sont vainqueurs dans l'Église. Le langage symbolique des couleurs, parce qu'il y en a des couleurs dans l'Apocalypse, c'est tellement beau que c'est toujours parlé de pierres précieuses qui ont chacune une couleur particulière. Et puis aussi les chiffres dans l'Apocalypse, et comme du reste dans toute la Bible, ont une valeur symbolique. Et puis je veux croire que vous avez aussi la clé de l'Apocalypse, il y a des jugements qui doivent se passer sur la terre. L'Apocalypse est aussi un livre de jugement et nous devons veiller. Même si nous ne connaîtrons pas certains de ces jugements, eh bien, nous savons qu'il y a d'autres âmes qui seront sur la terre après nous et qui seront des sauvés aussi. Il y a tout le résidu d'Israël, quand l'Église sera enlevée, il y aura un réveil qui se prépare déjà en Israël, et des hommes nouveaux annonceront l'évangile du royaume à toute la création en peu de temps, et des multitudes de païens seront convertis. Une foule nombreuse que Jean a vue. Il y a, après l'enlèvement de l'Église, un grand salut. C'est pourquoi ce n'est pas l'Église elle-même qui va achever l'œuvre, c'est les témoins nouveaux, parce que le Seigneur ne peut plus guère témoigner par nous autres, nous sommes compromis dans toutes les iniquités du christianisme. Le christianisme a fait trop de péchés, trop de scandales pour que les juifs et les musulmans et les bouddhistes et les autres puissent nous croire. Mais si vous ne nous croyez pas, nous, et nous en sommes bien humiliés, puissiez-vous croire en Jésus. Et ce qui me frappe, c'est de voir bien souvent, quand je m'adresse à la conscience des juifs ou à la conscience des musulmans, ils reconnaissent que Jésus n'aurait pas agi comme ceux qu'on appelle chrétiens ont agi. Il n'aurait pas fait le Shoah, c'est-à-dire l'Holocauste, il n'aurait pas fait non plus les croisades, le massacre des musulmans. Alors, je veux croire que vous avez retenu aussi la clé évangélique et que la lecture de l'Apocalypse vous amène vraiment à une béatitude et à l'adoration. Et je veux croire que vous avez lu les trois passages où on entend le ciel qui adore, comme on voudrait que dans nos églises on entende de telles prières. Il n'y a pas de grandes phrases. Il y a seulement quelques mots. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu les as fait, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour ton Dieu et Père, et ils régneront sur la terre. Et puis, tous se prosternent, verset 12, et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Quoi ? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la grâce et la louange. Cette expression qui résume une prière d'adoration. Vous êtes complètement piqué. Dieu notre Père, nous voulons te bénir de nous avoir permis d'arriver à la fin de cette journée. Nous voulons te demander maintenant que tu nous donnes à tous le repos nécessaire à nos corps, et que Dieu nous prépare pour ce premier jour de la semaine où nous voudrions encore te rencontrer, étudier sa parole pour apprendre à mieux te connaître et à avoir de plus en plus en nous le témoignage de Jésus. Nous te demandons de nous donner d'être familiers avec ces vérités, nous qui sommes familiers avec tant de choses du monde, donne-nous de devenir familiers avec les choses de ta parole. Car la figure de ce monde passe, mais ta parole demeure éternellement. Qu'il en soit ainsi, que tu bénisses chacun de nous sur sa couche, que tu orientes nos pensées vers toi et que nous puissions connaître demain une journée de grâce en attendant la gloire. Amen. Une fois encore, chers amis, j'aime à vous saluer dans le nom du Seigneur, espérant que vous avez passé une bonne nuit et que vous avez goûté à un peu de repos après des journées qui forcément étaient quand même chargées. Mais nous vous avons averti que dans ces retraits, c'est toujours un temps fort où nous essayons de consacrer toutes nos heures à étudier la parole, à nous immerger, si j'ose dire, ainsi dans la parole de Dieu. Et alors ce matin, le texte qui s'est imposé à moi pour terminer, c'est celui que j'ai ajouté et qui se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 22e, mais qui est aussi au chapitre 1er. Deux fois, ce texte est répété, du moins partiellement. Il complète au fond, le verset que nous avons lu hier, bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Et il est ajouté, car le temps est proche. Et dans le chapitre 22e, l'ange dit à Jean, au verset 10e, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, et de nouveau, car le temps est proche. Dans le livre de Daniel, où vous allez lire quelques versets ce matin, Daniel reçoit l'ordre de sceller les paroles de la prophétie qu'il a reçue, parce que ces choses doivent s'accomplir dans un temps éloigné. Alors, ces choses sont scellés. Tandis que dans l'Apocalypse, il ne doit pas sceller ces choses parce que le temps est proche. Et vous savez, pour Dieu, comme 1000 ans est comme un jour, et un jour comme 1000 ans, il veut que nous sachions que le temps est toujours proche. Nous pourrions faire toute une étude sur cette question du temps. Mais quand nous lisons les évangiles, nous apprenons que la parole de Dieu est pour tous les temps et toujours actuelle. Et que d'un moment à l'autre, ce qui a été annoncé peut s'accomplir. De telle manière que notre conclusion, c'est que nous devons être toujours prêts. Et Jésus n'a jamais enseigné ses disciples pour un temps lointain. Le mot du Saint-Esprit, si nous devons le résumer, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous avez déjà cela dans le psaume 85, qui est au centre de la Bible, et vous avez cela à plusieurs reprises dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 3e. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je veux croire que nous sommes vraiment venus à lui dans ces journées et que nous sommes déchargés sur lui de nos fardeaux, de nos tracas, de nos soucis. Ces fardeaux, ces tracas, ces soucis, ces anxiétés que nous avons dans le monde, un jour le Seigneur m'a appris à les considérer comme des péchés. Et c'est ainsi que j'ai pu passer au travers de bien des épreuves et des difficultés en restant paisible et en restant disponible pour les autres. Parce que quand on est préoccupé pour soi-même, on n'est pas disponible pour les autres. Et le Seigneur voudrait toujours que nous restions disponibles pour les autres. Et alors il nous dit, mais tes soucis, tes fardeaux, je les ai portés, tes anxiétés, je les ai prises à mon compte pour que toi, tu sois dans la paix, pour que toi, tu restes dans la joie au sein même de tes tristesses, car la parole de Dieu me dit, personne ne vous ôte votre joie. C'est une des paroles de Jésus, c'est un des témoignages de Jésus. Il ne veut pas que les circonstances nous enlèvent notre joie. Même au sein des pleurs, nous ne versons pas des larmes comme ceux qui sont sans espérance. Nous restons dans la paix. Nous ne voyons pas aujourd'hui peut-être l'exaucement, mais nous sommes sûrs de l'exaucement. Nos prières sont un jour ou l'autre exaucées, peut-être pas au moment où nous le voulons nous, mais au moment où Dieu estime que l'heure est venue. Alors, soyons de ceux qui savent attendre, mais qui sont convaincus que le temps est proche, le temps de la délivrance. C'est maintenant que nous devons garder les paroles de la prophétie de ce livre. C'est aujourd'hui le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que je dois croire que tout ce que nous avons vu ensemble est vraiment la parole permanente, vivante, actuelle du Seigneur qui a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Ne soyons pas de ceux qui disent « Mais nous ne sommes plus dans le temps d'Abraham ou dans le temps, oui, des patriarches, dans le temps des prophètes, nous sommes dans les temps modernes. » Eh bien, mes amis, nous vous disons avec force, les temps modernes sont la fin des temps. Les temps modernes correspondent à la fin des temps. Et c'est pourquoi nous devons être prêts et vigilants. Nous demandons au Seigneur que ces journées puissent se passer dans l'amour, dans la grâce, et que nous expérimentions ce que nous avons déjà dit, que la fin d'une chose est meilleure que son commencement est réellement le témoignage de Jésus soit dans nos cœurs, dans nos pensées, que nous y croyons et que dans la pratique, nous puissions en faire l'expérience. C'est le vœu de mon cœur pour vous.